Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi soir, bien sûr. Au sommaire, la fin de la crise de nerfs des paysans, la ministre de l'Éducation toujours sur la sellette et le droit à la paresse en France à la fin de l'émission. Mais d'abord, les agriculteurs, en effet. Les paysans ont-ils gagné? Le gouvernement a-t-il réussi à calmer la colère des agriculteurs? Après les annonces du Premier ministre puis du Président Macron, les barrages se sont retirés. Il y a encore quelques irréductibles, mais tout ceci va s'apaiser. Les agriculteurs sont-ils convaincus par les promesses du gouvernement? On fait le point avec Aminata Demphal, Michael Dos Santos et Fabrice Elsner.
Avant de quitter définitivement ce blocage, je crois qu'on peut quand même tous être fiers de ce qui s'est passé ces derniers jours.
Sur l'autoroute A6, certains agriculteurs restent et d'autres lèvent le camp. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, les a rejoints sur place et demande la suspension des blocages suite aux nouvelles annonces de l'exécutif.
Je suis allé à Lyon, je suis allé dans l'Yonne, je suis allé dans l'Oise, je suis là ce soir, je vais partout parce que je veux sentir ça, ça m'intéresse aussi. Moi, je suis pas un mec perché à Paris toute la journée.
Si certains agriculteurs se sont sentis écoutés et compris, d'autres sont dubitatifs.
J'en ai fait toute l'année des tableaux Excel. Je fais que ça de faire des tableaux Excel. On fait des plus, des moins, on est toujours en moins. Donc moi, j'ai pas de réponse à ça.
En déplacement à Bruxelles, Emmanuel Macron a proposé un Egalim européen et la création d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. Des efforts bien accueillis par les agriculteurs qui n'hésiteront pas à remonter la pression si les promesses ne sont pas tenues.
Ce qu'on aurait aimé avoir malgré tout, c'est un calendrier plus précis sur les différentes actions.
J'espère que ce travail-là va continuer parce que nos troupes ici sur le terrain ont besoin de réponses et on reviendra si on n'a pas les réponses.
Les producteurs ont fixé leur cap et attendent des premiers résultats d'ici au coup d'envoi du Salon de l'agriculture ce 24 février.
Les agriculteurs ont-ils vraiment gagné, Geoffroy Lejeune? Est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter ces annonces, la réaction des agriculteurs qui finalement libèrent les routes et les autoroutes?
Alors, je vais tenter mon petit résumé à moi, puis on verra si Philippe est d'accord. Mais pour moi, c'est du point de vue du gouvernement, ils ont tout lâché dans les mots. Ils ont donné raison sur tout aux agriculteurs dans les mots. Gabriel Attal, Emmanuel Macron à Bruxelles, ils ont vraiment donné. Si on comptait les points en sémantique, ce serait une victoire par chaos. Et dans les actes, on verra bien parce que pour l'instant rien n'est fait. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment se sont comportés les agriculteurs. Honnêtement, ce sont des gens tellement polis, tellement bien élevés, avec des valeurs qui sont tellement différentes des manifestants habituels qu'ils se sont comportés comme on ne s'y attendait plus. C'est-à-dire que... alors, il n'était déjà pas d'accord. Ils se sont comportés, si vous voulez. C'est une colère existentielle qui même d'ailleurs... Enfin, c'est des gens qui se battent pour ne pas mourir. Donc, c'est quelque chose de quand même très charnel, quoi. Ils ont fait ce qu'ils... Ils sont allés le plus loin possible. Et au moment où on leur a donné le début du commencement d'une solution à l'horizon, ils ont dit merci beaucoup et ils rentrent chez eux. Pour moi, c'est vraiment un statu quo. Ça s'appelle gagner du temps. Ça s'appelle figer une situation. Ça s'appelle acter des principes ou des victoires symboliques pour les agriculteurs. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé.
Parce qu'en effet, Philippe Guibert, les annonces sont symboliques. Et on a entendu des agriculteurs qui, pour certains, ne sont pas dupes. Ce sont des annonces, on attend les actes maintenant, disent-ils.
Oui, évidemment, enfin, c'est comme ça dans tous les mouvements sociaux. Même au moment des Gilets jaunes, quand au bout de 2 mois, Emmanuel Macron dit, je résume, je vous donne 15 milliards, parce que c'était 5 milliards de taxes en moins et 10 milliards de primes pour l'emploi. Rien n'était voté, rien n'était acté. Donc c'est tout à fait naturel qu'il n'y a pas de baguette magique en politique. Et donc des mesures, il faut prendre des décrets, il faut faire voter des lois, il faut négocier au niveau européen. Et donc il est parfaitement naturel que là, dans l'immédiat, il n'y ait pas de choses immédiates. Il n'y a pas de baguette magique. C'est toujours comme ça. Juste, j'ai tiqué quand tu as dit ils sont polis à la différence d'autres manifestants. Je rappelle quand même que les manifestations contre la réforme des retraites, pendant 3 mois, ont été extrêmement sages et qu'eux, ils n'ont rien obtenu. J'ai pas dit c'est vrai que ça a dégénéré à partir du moment où le 49-3 a été...
Je fais la part des choses entre les
autres. Mais c'était... En fait, la leçon, enfin, c'est une des leçons pour moi de cette affaire, c'est que pendant la réforme des retraites, le dialogue social a été impossible. Dans cette crise agricole, c'est le dialogue social qui a permis une solution, parce que quelle est la réalité de ce qui s'est passé? C'est une négociation entre le gouvernement et Gabriel Attal et la FNSEA. C'est ça qui s'est passé. Avec la Confédération paysanne. Mais enfin, l'essentiel, c'est dealer avec la FNSEA. Et c'était le but du jeu et c'était l'intérêt et du gouvernement et de la FNSEA qui était légèrement débordé par la Confédération paysanne. Et donc je crois que voilà, c'est une leçon que quand il y a des corps intermédiaires, les conflits sociaux ne s'éternisent pas. Après, est-ce qu'ils sont gagnants? En 2 mots, ils sont gagnants à l'évidence parce que la France entière a découvert les problèmes de l'agriculture. Je parle de la France métropolitaine. Je retire France entière. Je dirais la France métropolitaine qui n'a plus de relation avec le monde rural. C'est mon cas. Je suis un métropolitain passé de Nantes à Paris. Dernière fois que j'ai vu un agriculteur, c'était pour aller chercher du muscadet à Nantes. Mais c'est quand même un peu loin. Donc là, on était au courant. Pour les gens qui s'informent un peu. Mais là, on a découvert toute une série de problématiques qui sont essentielles pour les agriculteurs. Ils ont gagné une deuxième chose. C'est que le gouvernement est quand même sous pression du Salon de l'agriculture dans 3 semaines. Ça vient vite. Et des élections européennes dans 5 mois. Oui. Et si le gouvernement ne met pas en œuvre un bon commencement, un gros commencement de ce sur quoi il s'est engagé, ils vont avoir des problèmes, le gouvernement, au Salon de l'agriculture ou aux élections européennes.
Geoffroy Lejeune, les agriculteurs qui ont manifesté en France se sont mobilisés. Je ne parle pas de ceux de Bruxelles où il y a eu des incidents qui étaient parfois assez violents. Ouais. Étaient-ils suffisamment déterminés pour faire plier le gouvernement? En l'occurrence, le gouvernement a fait quelques annonces, et on va y revenir, avec notamment la souveraineté. Cette souveraineté, les agriculteurs français la retrouvent-ils? Et véritablement, est-ce qu'ils étaient prêts à faire le coup de poing? On a l'impression qu'ils étaient extrêmement polis, qu'ils n'osaient pas rentrer dans Paris et vraiment faire pression sur le gouvernement pour obtenir des résultats plus rapides.
Ah, déjà, pour commencer, en fait, c'est quasiment leur premier mouvement social, en fait. Ils ont des syndicats, il y a eu des actions, etc. Ouais, bien sûr, mais un mouvement spontané avec autant d'entre eux qui se mettent sur les routes, qui quittent leur exploitation, qui viennent, qui occupent l'actualité pendant une semaine, etc. Ça, pour le coup, moi, de mon vivant, je ne l'ai pas connu. Donc
c'était petit.
C'est où j'étais petit, merci.
Oui, parce que dans les années 80, lorsqu'Edith Cresson était ministre de l'Agriculture, il y a eu des manifestations. Oui,
et puis il y a le Parlement de Bretagne qui a été brûlé, de mémoire, c'est au début des années 90. Donc c'était extrêmement violent à ce moment-là.
Moi, je suis né en 88, pardon, j'ai pas le souvenir de ça.
C'était petit.
Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, comment vous dire, il y a eu un mouvement de la base, en fait. Et d'ailleurs, les syndicats ont épousé un mouvement de la base, en fait. C'est venu comme ça. C'est pas la FNSEA le GNR, c'est plus possible. C'est vraiment des gens qui se sont énervés. Et d'ailleurs, l'émergence de la coordination rurale, qui est le syndicat qu'on a beaucoup vu sur les plateaux, etc., qui médiatiquement n'existait pas jusqu'à présent, est un symptôme aussi de ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y avait besoin d'une autre parole, peut-être un peu plus véhémente, et voilà. Mais, comment vous dire, moi, je pense que fondamentalement, ce qu'ils ont demandé, c'est un changement de logiciel, pour paraphraser notre ami Pascal Praud. C'est-à-dire, en fait, ils ont dénoncé. Notre maître à tous.
Ils ont salué puisqu'ils nous regardent.
Et ben, écoutez, c'est une pression supplémentaire.
C'est une pression supplémentaire, là, que vous venez de nous mettre, là.
Mais ce qui est. Ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai entendu dans tous les témoignages qu'on a pu écouter ici, c'est des gens qui dénonçaient non pas telle ou telle mesure. En fait, le GNR était un prétexte, c'était l'étincelle comme d'habitude, mais ils dénonçaient le cadre dans lequel s'inscrit leur action. En fait, ce sont des gens qui vous disent, en 1945, on était 7 millions, aujourd'hui, on est 400 000, ça n'est pas possible. C'est, selon la formule de Houellebecq, le plus grand plan social à bas bruit de l'histoire de France. Et en fait, la suppression d'une taxe Et la simplification de 10 normes, même si elle fait plaisir, n'est pas la réponse.
On a l'impression que les agriculteurs demandaient de la considération, ils en ont obtenu à travers les mots, à travers les mesures, oui. Et que cela suffit. Que c'était un manque de considération.
Et bien sûr qu'ils ont obtenu de la considération, et je pense que là-dessus, l'exécutif avait tiré des leçons des Gilets jaunes. Ah, mais à la différence des Gilets jaunes, ils avaient des interlocuteurs.
La considération, ça suffit pas pour changer la vie.
Mais il n'y a pas eu que de la considération, quand même, soyons... Attendez, même les mesures de simplification et la suppression de la taxe sur le gazole, ça va beaucoup plus loin que ça, les annonces et les engagements de
certains prix. Par rapport au problème, c'est rien.
Oui, non, quand même. Tu as des aides d'urgence, dont tu peux dire que ce sont des rustines.
Oui,
okay, non. Enfin, 400 millions quand même. Et tu as quand même la remise en cause... Attends, je termine. Tu as quand même la remise en cause de normes écologiques qui étaient engagées. Et je pense que sur le plan politique, idéologique, c'est ce qu'il y a de plus important dans le plan du gouvernement. Parce que la réalité, c'est que là, ça a été une défaite pour l'écologie telle qu'elle a été conçue au niveau européen, français, c'est-à-dire une écologie où on avance un peu à marche forcée, sans trop tenir compte de la réalité des métiers tels qu'ils sont pratiqués, en l'occurrence par les agriculteurs. Donc c'est une défaite pour tout le discours qui dit qu'il faut à marche forcée effectuer une transition écologique. D'ailleurs avec des points qui sont contestables. Et où aujourd'hui la presse est pleine d'articles dans Le Monde, Les Échos, dans d'autres, qui disent, voilà, c'est une grande défaite pour l'écologie. Ils le disent pour Le Monde de façon très attristée. Pour Les Échos, ils ont un constat plus objectif. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est qu'après les Gilets jaunes, ça au moins, ça faisait un point commun, c'est qu'on est dans une contradiction entre ce qu'on veut nous faire pour la transition écologique. Gilets jaunes, c'était quand même, je rappelle, c'était la taxe carbone votée sous François Hollande et qui augmentait progressivement, qui est montée en puissance. Et puis, pof, c'est tombé à un moment où le prix de l'essence, le prix du pétrole a augmenté et ça fait exploser parce que sans ça, il n'y a pas les Gilets jaunes quand même, même si après, il y a eu plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ça. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné où les taxes et les normes écologiques font que les gens disent on arrête là, maintenant, c'est pas possible. Donc, il y a quand même d'acter une remise en cause qui d'ailleurs inquiète les associations écologiques et écologistes. Ils font la gueule, hein, ils sont pleins d'amertume. Donc ce plan, ce qui a été annoncé par le gouvernement, ce n'est pas rien et ce n'est pas que des rustines. Maintenant, et c'est intéressant parce qu'il faudra bien qu'on arrive à concilier un jour écologie et puis travail des agriculteurs ou des salariés.
Dans
et là, ça devient très compliqué.
Le politique est très intéressant, en effet, quand on nous posera la question dans quelques minutes, de savoir si les paysans sont plutôt à droite ou à gauche, les écologistes étant plutôt à gauche. Mais d'abord, avant de basculer sur cette thématique, je voudrais juste vous livrer, je suis tombé dessus cet après-midi, et voilà pourquoi je voulais vous faire une petite surprise, sur cette tribune d'un docteur en droit qui s'appelle Kamel Hilali, c'était dans Libération, et qui estime que une fonction publique agricole, je dis bien une fonction publique agricole, doit être créée pour sauver les agriculteurs. J'aimerais bien avoir votre sentiment pour qu'ils obtiennent un revenu décent, que ce soit aussi la fin des pesticides pour certains quand on parlait d'écologie tout à l'heure. Ça ressemble, je crois, le jeune à ce qu'on faisait pendant l'URSS avec les kolkhozes notamment, avec des millions de morts. Ça ressemble à ça.
Et c'est marrant parce que je ne sais pas si la personne qui écrit cette tribune dans Libération s'attendait à ce type de compliment, mais en fait, c'est la proposition d'Éric Ciotti, quasiment, qui dit il faut un
avec
revenu...
Avec 1500 euros.
Il faut un revenu pour les agriculteurs parce que... Et moi, je ne suis pas parce qu'ils ont une fonction sociale évidente, etc. Moi, je ne suis pas choqué par ça. En fait, encore une fois, ils étaient 7 millions en 45 et ils sont 400 000 aujourd'hui. Ils ont disparu, ils sont en train de disparaître. Leur activité est compromise. Il y a un plan d'éradication de l'agriculture en France. C'est objectivement...
La faute au système et aux politiques et au traitement des politiques envers les paysans depuis des dizaines d'années.
Absolument. Ouais. Donc si aujourd'hui il y a une prise de conscience du fait qu'ils sont en fait essentiels, et moi je suis désolé Philippe, je suis pas écologiste, mais j'aime la nature. J'aime la nature, vraiment.
Oui.
Et par ailleurs, je pense que moi j'ai été scout, donc j'ai vécu...
T'es né en 88 et t'as été scout.
Et absolument, bien sûr. Donc j'ai vécu dans la forêt. J'ai dormi, j'y ai passé des semaines entières pendant toute ma vie, donc je la connais, je sais comment... Je pense que si demain, tu jettes Julien Bayou dans une forêt et moi pendant un mois, je pense que je survis et pas lui, tu vois, j'en suis absolument certain. Et donc,
on va lui demander.
Les agriculteurs, c'est pareil, en fait. C'est des gens qui connaissent la nature parfaitement. Ils savent comment la domestiquer, la dompter, s'en servir, la respecter. Et ils sont en prise avec elle au quotidien. Et moi, l'idée de savoir que des gens à Bruxelles ou à Paris, d'ailleurs, ont des idées pour leur dire comment il faudrait qu'ils se servent de la nature, me révolte, mais vraiment profondément. Et donc, sur la question du service public de l'agriculture et de je pense que ça ne peut marcher que si c'est une mesure d'urgence. Parce que la vérité, c'est que dans un système, aujourd'hui, là, maintenant, je suis d'accord. Il faudrait les subventionner parce qu'un agriculteur qui gagne 350 euros par mois en travaillant tout le temps, c'est pas possible.
Oui, bien sûr, c'est pas possible.
C'est pas possible. En revanche,
acceptable.
Le monde que nous devons construire, c'est un monde où l'agriculteur qui nourrit la France doit vivre de son travail sans aide publique.
Ouais. Vous lirez, oui, Philippe Guibert.
Oui, sur plusieurs choses. Je survivrai moins longtemps que toi dans une forêt aussi.
C'est,
donc,
c'est pas un combat.
Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision... Tu compares 1945 à 2024.
Bah oui,
Mais il s'est passé plein de choses entre-temps. Le changement de nature, le changement de nature de l'agriculture française, c'est sous De Gaulle et Pompidou. Le moment où on passe vraiment d'une société à dominante rurale à une société à dominante industrielle et métropolitaine, c'est la période De Gaulle-Pompidou. Et c'est à ce moment-là qu'on crée la PAC, d'ailleurs. Moi, je trouve ça très marrant que... En France, on pense à créer une fonction publique quand on a un problème. Et c'est amusant, alors que ça vienne d'une tribune dans Libé, que je n'ai pas lue, il faudra peut-être la lire dans le plus de détails, mais que ça vienne d'Éric Ciotti, je trouve, le chef du parti de droite, c'est assez drôle, je trouve ça assez comique. D'autant plus qu'on a fait les mêmes réflexions pour les médecins. Hein. On s'est dit qu'il faut qu'ils deviennent salariés, et d'une certaine manière salariés de la sécurité sociale, ce qui revient un peu ou prou à un peu à la même chose. Mais je suis d'accord sur les mesures d'urgence, mais je suis d'accord aussi avec toi sur le fait qu'on peut pas imaginer que des agriculteurs vont vivre de manière permanente, de façon subventionnée. Et donc le deuxième, il y a le premier conflit qu'a révélé cette crise entre l'écologie et l'activité économique des agriculteurs. Et puis il y a un deuxième conflit qui est très important aussi pour la suite, qui est entre l'Europe libérale du libre-échange et puis ce qui aujourd'hui apparaît à tous comme une nécessité, qui est qu'on préserve ce qu'on appelle notre souveraineté, il faudrait plutôt parler d'indépendance, et qu'on ne peut pas tout sacrifier au libre-échange. Et que le libre-échange peut avoir des avantages, il ne faut pas complètement cracher dessus. On a aussi des entreprises et des agriculteurs qui exportent, je pense notamment au vin, mais qu'on n'est pas toujours gagnant à ce jeu-là, et quand même, on peut perdre beaucoup. Et donc, il y a une deuxième remise en cause, qui est que le grand miracle du libre-échange, du libéralisme qu'on nous a vendu pendant 30 ans, à droite, puis à gauche, d'ailleurs la gauche ayant adopté ce discours, pas pour sa réussite électorale et politique. Et on se retrouve aujourd'hui à comprendre qu'il va falloir aussi changer, sinon de logiciel, comme dit Pascal, au moins qu'il va falloir réorienter des choses. Or là, on découvre aussi, moi je découvre ça, parce qu'au départ, naïvement, je disais, mais il faut une initiative franco-allemande. C'était complètement naïf de ma part, je me suis planté. Parce que l'Allemagne a des intérêts et un point de vue sur la question agricole qui est complètement différent d'une autre. C'est-à-dire que eux, dans les accords de libre-échange, ils défendent leur industrie qui va exporter. Et nous, comme on n'a pas d'industrie, on est complètement perdants dans ces échanges.
Sur le libre-échange, justement, comme les parties se déchirent, comme vient de le décrire Philippe Guibert, est-ce que ce mouvement, cette crise des paysans et ce mouvement paysan, cette colère des agriculteurs, Geoffroy Lejeune, était politisé? Et j'en viens à la question, est-ce que c'était politisé avec des paysans plutôt à droite?
Honnêtement, moi, je suis vraiment de droite. Je m'en suis jamais caché. Oui.
Incroyable, ça. Tu nous dis, non seulement t'es né en 88, et en plus t'es
après cette révélation. Après cette révélation, franchement, les paysans ont toujours été pour une droite modérée ces dernières années. Général.
Si.
Moi, mais là, il semblerait, voilà, que le mouvement se soit un tout petit peu densifié, avec notamment la coordination rurale qui se serait rapprochée dans les idées du Rassemblement national, notamment.
Mais en fait. Je pense que c'est l'inverse qui se passe, en fait. C'est que ce sont des paysans qui ont des problèmes. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que si vous voulez classer dans une étiquette politique les paysans, vous vous trompez. Et je vous ai dit, je suis droite, pas pour vous faire une révélation, mais pour vous expliquer que en tant que personne de droite, je ne crois pas, quand je parle, et je parle beaucoup avec des paysans, qu'ils aient une approche idéologique de la chose. Ils ont des problèmes, ils ont des réalités, ils ont un quotidien.
Ce sont des électeurs aussi.
Oui,
ils
mais.
Ont des idées.
Mais justement, écoutez-moi jusqu'à la fin. Ils ont des problèmes, ils ont une réalité, ils ont un quotidien, ils ont une analyse de ce qui se passe. Et à la fin, il regarde dans l'offre politique, je pense, à l'origine, honnêtement, sans idéologie aucune, il regarde dans l'offre politique ce qui leur est proposé et leur solution, les solutions à leurs problèmes se retrouvent plutôt à droite. Et c'est pas un problème. La question, c'est pas est-ce que les agriculteurs sont à droite, c'est pourquoi les partis de gauche s'intéressent pas à ça. C'est ça le sujet. C'est qu'en fait, alors, si on a dit beaucoup, la coordination rurale est d'extrême droite, c'est Rassemblement National, ils sont à droite, ils votent à droite, ils sont entre Macron. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qui répond le mieux à leurs préoccupations.
Oui.
Ce sont des Français.
Est-ce que c'est pas politisé malgré tout? Ok, il y a des réponses à apporter, mais est-ce que cette crise n'a pas été politisée? Les syndicats, quand ils parlent, les syndicats ruraux, quand ils parlent, c'est de la politique.
Je pense que pas du tout. Et je pense que d'ailleurs, la meilleure réponse à cette question, c'est qu'à l'instant où, sans aucune preuve d'amour, parce qu'il y a des paroles d'amour, mais il n'y a aucune preuve d'amour, Macron et Attal disent je vous ai compris, ils repartent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont juste des problèmes. C'est pas une question de politique. Ils voulaient pas faire un putsch et installer Marine Le Pen ou Zemmour ou je sais pas qui.
Oui, évidemment.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les réponses à leurs questions. Et pour le coup, la vraie question qui est posée, c'est, parce que je poursuis 30 secondes, mais Emmanuel Macron, Gabriel Attal, le gouvernement, etc., ont eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait une vraie urgence. Je pense qu'ils ont même compris la nature de la crise, au-delà des raisons de la crise, la nature de la crise. Et d'ailleurs, ils l'ont prise au sérieux, ça s'est vu. Les partis de droite, les Républicains, Reconquête, le Rassemblement National avaient identifié ça depuis très longtemps, donc ils avaient déjà un discours sur le sujet. J'étais en plateau tout à l'heure avec Philippe de Villiers. En 1995, ils disaient déjà des choses qu'on entend aujourd'hui sur les plateaux. Donc ces gens-là ont compris depuis très longtemps. Maintenant, la question, c'est les partis de gauche. La vérité, c'est qu'en fait, les écologistes au premier chef sont coupables, super coupables dans ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, mais c'est pas okay.
Le Parti Socialiste, Philippe, je suis désolé de renvoyer à ton passé.
Mais je vais te lancer là-dessus parce que je trouve
vous êtes trompé, c'est tout, c'est comme ça.
Comme il nous reste une petite minute avant le flash, on va prolonger le débat et vous aurez votre temps de parole, Philippe Guibert. Attention.
Oui, parce qu'il vient de me dire que je me suis trompé, c'est inacceptable.
Petite amorce.
C'est un peu violent, je suis d'accord.
Un peu de teasing avant le flash sur la réponse que vous allez donner dans quelques instants à Geoffroy Lejeune. Sur les paysans sont-ils de droite et la gauche s'est-elle trompée dans le traitement
ceux
politique
ceux qui dirigent la droite et qui au Parlement européen et à la Commission européenne, aujourd'hui, c'est de droite, Geoffroy.
C'est vrai.
Madame von der Leyen, c'est une figure de la droite allemande, déléguée comme telle, parce que donc, au Parlement européen, la majorité, c'est le PPE, le Parti Populaire Européen.
Alors,
dans lequel, attends, je termine. J'ai qu'une minute. Donc, dans lequel les Républicains sont membres de ce groupe et qui ont voté tous les accords qui aujourd'hui sont en cause. Donc quand tu dis c'est de la faute des écologistes, il y a une responsabilité des écologistes. Et peut-être du PS d'avoir accepté ce discours. Je te le concède volontiers sur ce point. Mais le problème est plus complexe que ça. Mais on y reviendra
juste après la pause. Pause rapide, le rappel de l'information avec Félicité Kindoki. Et on se retrouve dans Ça se dispute, bien sûr, en compagnie de Philippe Guibert et de Geoffroy Lejeune. A tout de suite sur CNews. La deuxième partie de Ça se dispute avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. Les débats reprennent dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'information. Félicité Kindoki, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. C'est une décrue, mais pas encore l'épilogue. Après les concessions gouvernementales, les agriculteurs ont levé progressivement la plupart de leurs blocages depuis ce matin à l'appel des deux principaux syndicats du secteur. Mobilisés en masse depuis lundi, ils barraient des portions d'autoroute aux abords de Paris. Et malgré la calmie, certains agriculteurs veulent poursuivre le mouvement. Nouveau coup dur pour Amélie Oudéa-Castéra, l'un des plus hauts cadres de l'éducation nationale, le recteur de Paris, Christophe Guerrero, a démissionné. Une décision rarissime qui survient sur fond de désaccord après le choix du ministère d'un moratoire sur une partie de sa réforme des classes préparatoires, destinée à introduire davantage de mixité sociale à la rentrée 2024. Deux humanitaires français ont été tués dans le sud de l'Ukraine lors d'un bombardement russe. Les deux victimes ont péri lors d'une frappe sur Berislav, une petite commune située près de la ligne de front. Trois autres Français ont également été blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la mémoire des deux courageux humanitaires français et Paris dénonce un acte de barbarie.
Merci Félicité Kindoki, 22h pour le prochain point complet sur l'information sur l'antenne de CNews. Les débats donc dans Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. On prolonge cette thématique sur la politisation éventuelle des agriculteurs et notamment les paysans sont-ils de droite. C'est vrai que les syndicats n'ont pas été toujours d'accord pendant cette crise. On dit que la coordination rurale très active aurait des convergences de vues avec le Rassemblement National. Je vous cède la parole parce que vous avez votre temps de parole qui est décompté, mon cher Philippe Guibert. Mais écoutez d'abord, d'abord Patrick Legras, le porte-parole de la coordination rurale, sur le bilan du mouvement. Et vous me direz après si un politique n'aurait pas pu tenir les propos qu'il tient maintenant.
Non, aujourd'hui, on n'a rien gagné du tout. La seule chose qu'on a gagné, c'est que maintenant, on est plus connu par les Français. Oui. Et on a pu parler de problèmes qui étaient sous-jacents depuis des dizaines d'années et qu'on taisait ou qui faisaient pas bon de parler. Après, on a une très, très grande, je dirais, opportunité qui va être dans 3 semaines avec le Salon agricole.
Voilà, c'est un discours qui pourrait être tenu par un politique qui défend ses intérêts, Philippe Guibert.
Oui, bien sûr. Mais juste pour terminer là-dessus, sur la droite, la gauche, voire le RN. Donc la droite est prise à contre-pied par rapport à son libéralisme économique traditionnel. Et la gauche est prise à contre-pied parce qu'elle s'est complètement convertie à l'impératif écologique, l'urgence écologique. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans les discours, notamment du RN cette semaine et ces toutes dernières semaines, c'est qu'autant ils peuvent être très bons dans la dénonciation des problèmes, lorsqu'on leur demande ce qu'ils proposent concrètement, ils sont pris eux aussi dans une contradiction. Ils se sont créés eux-mêmes. Non, mais comme les autres partis politiques.
Quelle contradiction ?
J'allais te le dire. C'est que depuis qu'ils ont renoncé à sortir de l'Union européenne et de l'euro, ils sont en contradiction avec les solutions ou les esquisses de solutions qu'ils proposent, qui sont en fait en contradiction complète avec les règles européennes. J'ai eu un petit débat cette semaine avec Julien Odoul sur ce plateau. Et c'est extrêmement frappant. Et donc, eux aussi doivent clarifier, comme la gauche et comme la droite, leur position là-dessus, parce qu'ils ont voulu être beaucoup moins anti-européens, alors que leur solution concrète revient à faire sauter les règles européennes, ce qui peut se défendre. Mais il faut être cohérent jusqu'au bout. Et surtout, il faut l'assumer, c'est-à-dire assumer, à un moment donné, de dire... On veut sortir de l'UE. Mais je veux dire, c'est une opinion qui n'est pas criminelle à mes yeux. Mais c'est une opinion qui doit s'assumer. Donc en fait, tous les mouvements politiques sont pris face à des contradictions par cette crise qui a révélé des problèmes avec l'écologie, avec l'Europe libérale du libre-échange. Et donc tout le monde doit se réaligner et commencer à travailler. Pourquoi on dirait un politique qui parle ? Peut-être parce qu'il a été beaucoup plus concret que les politiques. Moi, j'étais très frappé pendant cette crise que c'était un dialogue entre le gouvernement et les paysans les paysans en colère, mais qu'il y avait quand même un grand silence politique à côté. Il y a eu quelques prises de parole individuelles, personnelles, mais globalement, les partis politiques se planquaient un peu parce qu'ils étaient pris face à leurs propres contradictions pour proposer des solutions.
Et notamment les écologistes, plutôt à gauche, qu'on n'a pas entendu ou qu'on a entendu en disant que l'agriculture pouvait être, comme souvent d'ailleurs Geoffroy Lejeune, opposée à l'écologie. Et on dit que les agriculteurs sont peut-être plutôt de tendance de droite, comme les écologistes sont à gauche, parce qu'on oppose ces deux mouvements, ces deux univers, alors qu'ils devraient être ou qu'ils pourraient être associés.
Ils pourraient dans un monde idéal, mais en fait dans la réalité c'est impossible. C'est-à-dire que vous avez des gens, je faisais une blague tout à l'heure sur Julien Bayou et moi largués dans une forêt et on verrait qui tient le plus longtemps. La vérité c'est que en fait les écologistes sont des gens qui évoluent dans 4 arrondissements de Paris ou dans des grandes villes éventuellement, oui. Et qui se sont formés au militantisme, à l'idéologie, à la lecture, etc. Et les écologistes, les agriculteurs pardon, sont des gens qui vivent dans la nature et qui savent que la nature ça se dompte en réalité. Et donc tout ce qui est tout ce qui donc le par exemple les pesticides, c'est quelque chose qui a été inventé pour obtenir des récoltes régler des problèmes qui étaient créés par la nature elle-même et non mais en fait c'est l'histoire de l'humanité, c'est de réussir à avoir des récoltes de mieux.
Mais
de...
c'est le tournant de l'agriculture intensive et industrialisée.
Ça, c'est autre chose.
Qui s'est fait avec la droite, avec la FNSEA, qui a toujours été engagée à droite, proche du RPR, qui est donnant deux ministres de l'agriculture à des gouvernements de droite.
C'est ça. Mais si je peux me permettre, c'est un autre sujet. Moi, je parle du principe du pesticide. Le pesticide, c'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure récolte, plus abondante. Et d'être moins dépendant de
plein d'aléas. Et le fait que le programme Ecophyto ait été suspendu est considéré comme étant une victoire pour les agriculteurs, et les écologistes disent que l'environnement est victime de l'issue de cette crise agricole.
Mais ils n'en savent rien, la vérité, c'est qu'ils en savent.
Ont le droit d'avoir cette conviction.
Non, mais ils ont tous les droits, mais par contre, ils peuvent avoir tort aussi. En fait, le problème, c'est qu'il y a une erreur fondamentale chez les écolos. Ils sont dans l'erreur depuis le début, et donc, chaque fois qu'ils obtiennent une victoire, c'est un drame pour tout le monde. Ensuite, tu as raison sur la droite et le libéralisme. Et là, pour le coup, je dirais pas que c'est une erreur, je pense que c'est un aveuglement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pensé que ça s'appliquait partout, tout le temps. Et de fait, il est vrai que dans l'agriculture, j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit sur le sujet. Et je pense que notamment les traités de libre-échange sont une aberration absolue, morale, économique, et même humaine,
et écologique. Par rapport,
et écologique. Voilà. On est d'accord là-dessus. Maintenant, pour revenir au RN, je pense que c'est ni une erreur ni un aveuglement. Je pense que c'est une concession tactique. Moi, ce que je reproche au RN, c'est d'avoir fait du politiquement correct pour essayer de rentrer un peu dans le système et de faire moins peur et de convaincre plus de monde. Et en l'espèce, la non-sortie de l'Union européenne...
C'est le destin de tout parti qui veut accéder au gouvernement.
Le problème, c'est qu'en fait, la question, je pense, se pose très différemment aujourd'hui. Notamment depuis cette crise et depuis les 3-4 crises qui ont précédé, les retraites, tout ça. C'est qu'en fait, ils ont fait des concessions sémantiques, stratégiques, pour être mieux acceptés dans les médias. Ça a marché. Ils le sont, de fait. Ils sont beaucoup plus acceptés aujourd'hui, beaucoup mieux tolérés, ils font moins peur. Mais ils n'ont plus les solutions aux problèmes qu'ils sont censés dénoncer. Je suis d'accord avec toi.
Voilà, on est d'accord.
De l'Europe, par exemple.
On est d'accord.
Sauf que, entre-temps, tu as un président de la République qui t'a expliqué que l'avenir était européen et uniquement européen, qui te dit on va faire de la souveraineté. Tu as un Premier ministre qui est sa reproduction quasiment. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est pas personnel, mais c'est le clone de Macron en version brun et plus jeune, qui t'explique la même chose. Eux aussi abdiquent leur logiciel. Donc,
oui, tout à fait exact.
La question, c'est que tous les logiciels ayant explosé, toutes les oppositions auxquelles moi j'étais attaché aussi, parce que je trouvais qu'il y avait du sens à ces oppositions, mais en fait, elles n'existent plus. Maintenant, la question, c'est le réel, les Français. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que le réel, on le connaît, on le décrit ici toute la journée, les Français, ils ont une opinion assez tranchée là-dessus.
La réponse de Philippe Guibert, et après, on évoque le cas de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. Philippe
Guibert. Non, mais on est d'accord. On est en train de dire que le clivage gauche-droite tel qu'il s'est construit ces dernières années est en train d'être dépassé par plein de problèmes.
Beaucoup.
Et qu'il n'a pas réponse, en tout cas à tout. Et qu'il ne traite que des bouts de problèmes. Et que c'est une des difficultés de la vie politique française, mais pas simplement française, que le vieux, bon vieux clivage gauche-droite n'a pas réponse à beaucoup de nos problèmes. Voilà, donc à partir de là, il faut que les partis politiques travaillent à de nouvelles solutions. C'est compliqué, parce que c'est compliqué beaucoup par le niveau européen. Moi, je redis aujourd'hui que en France, nous sommes minoritaires en Europe par rapport à la conception de l'agriculture qu'on souhaite tous défendre, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour avoir une agriculture qui nous assure un minimum d'indépendance alimentaire et qui défend une certaine qualité de l'alimentation.
Avec des tomates mangeables.
Voilà. Je finis juste sur les pesticides.
À la différence de ce qu'a dit Ségolène Royal sur les tomates espagnoles. C'est juste une petite parenthèse.
Ségolène Royal a toujours le don de se faire remarquer. Mais je finis juste sur les pesticides, parce que ce n'est pas que du progrès, les pesticides. Ça a été du progrès. Mais on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Alors c'est là où il faut être extrêmement prudent. Je ne suis pas assez compétent pour faire le départ. Mais que, par exemple, le glyphosate, il est connu qu'elle nuit à la biodiversité. Le glyphosate nuit à la biodiversité. Autant les exagérations, les démonstrations, pas vraiment démontrées sur le cancer que donnerait le glyphosate aux humains, là c'est très discuté sur le plan scientifique, autant sur la biodiversité, ça a des effets. Et la situation de la biodiversité est catastrophique en France et dans d'autres pays.
Ouais. Certains agriculteurs, ça dépend comment ce glyphosate justement est dispersé, comment il est vendu, et les Français le feraient dans des normes relativement sécuritaires.
Moi je ne sais pas trancher mais je regarde sur le problème de l'eau par exemple aussi, qui est un autre problème, là c'est plus les pesticides. Notre usage de l'eau va devoir changer, regarde. Là, nous sommes le 2 février ou 3 février. Barcelone, la Catalogne, est en situation de sécheresse. On n'est pas au mois de juin, on n'est pas au mois de juillet, pas au mois d'août. Et donc le réchauffement climatique, il a des effets auxquels on va devoir s'adapter en modifiant nos usages. C'est vrai pour nous en tant que citoyens consommateurs, mais ça sera vrai aussi pour les producteurs, qu'ils soient industriels ou agricoles.
Quelques minutes maintenant pour évoquer le cas de la ministre de l'Éducation depuis sa nomination. Amélie Oudéa-Castéra enchaîne les polémiques au lendemain d'importantes manifestations également d'enseignants. C'est passé un petit peu inaperçu dans la crise rurale, mais néanmoins cela a véritablement existé. Elle a pourtant annoncé son intention de ne pas démissionner, bien que toujours sur la sellette, on l'écoute.
Je ne songe pas à démissionner.
Vous n'y avez pas songé à aucun moment.
Écoutez, je vous l'ai dit, moi je ne cache pas mes émotions. D'accord ? J'en fais, encore une fois, une force pour avancer, avec sincérité. Voilà, je dis les choses. Aujourd'hui, je suis dans l'action, au service de l'éducation nationale, et pour faire réussir tous les élèves de ce pays.
Est-ce que néanmoins la situation n'est pas intenable, Geoffroy Lejeune, avec cette succession de polémiques et le fait que sa mission soit desservie par toutes ces polémiques? C'est très difficile pour elle. Moi, je compatis, finalement.
Moi, je souhaite qu'elle reste ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Je le souhaite parce que je ne voudrais pas que son départ soit la victoire de Mediapart, de quelques fidèles zélés de Mediapart qui sont dans le service public, de journalistes qui adorent lancer des cabales, des meutes. J'aimerais bien que ces gens-là ne gagnent pas. Mais, pour autant, c'est Madame Boulette.
Ah oui.
Elle est incroyablement mauvaise en gestion de crise. J'ai jamais vu ça. Ses vœux, j'ai vu ses vœux hier ou avant-hier, je ne sais plus, où elle reparle alors que tout le monde se fout de son histoire. La vérité, c'est qu'en fait, elle commence toutes ses phrases par « je quelque chose ».« Je pense que je ne céderai pas ». Je, on se fiche complètement de ce qu'elle pense. Déjà, pour commencer, on ne la connaît pas. La vérité, c'est qu'en fait, elle a beau être ministre depuis quelques années, on ne sait pas qu'elle existe. Elle aurait pu se faire oublier, ça aurait été la meilleure stratégie. Et elle essaye de convaincre, de retourner l'opinion avec une maladresse que j'ai rarement vue à ce niveau-là. Rarement. Donc, elle est en train de donner beaucoup, beaucoup de bâtons pour se faire battre. Et moi, à chaque fois que je la vois dans un média, je me dis, mais il n'y a pas un communicant pour lui dire, reste caché. Elle se serait mise dans
une
grosse... qu'elle
les écoute par les communicants.
Et oui, j'en sais rien d'ailleurs. Mais en fait,
la faute de départ, c'est parce qu'elle a écouté personne.
À l'issue de la polémique Stanislas, qui s'est éteinte quand même il y a quand même quasiment deux semaines.
Il y en a une depuis.
Oui, mais elle se serait mise dans une grotte pendant trois semaines. Tout le monde aurait oublié. Et elle est exceptionnelle. Elle va faire des vœux, elle reparle
de ça.
Dernier
camouflé en date, d'ailleurs, le recteur de Paris, Christophe Kéréco, qui apparemment ne pouvait pas continuer à porter la carte scolaire après que la ministre donc, l'ait désavouée sans le prévenir. Et lui, il a présenté sa démission. Donc, décision extrêmement rarissime. Il a expliqué d'ailleurs, avec une lettre adressée au personnel de l'Académie, sur fond d'échec de son projet de réforme des classes préparatoires dans la capitale, destiné à introduire davantage de mixité sociale. Cela veut dire, Philippe Guibert, que la ministre incarne encore cette forme d'élitisme qu'on lui reproche, en tout cas de caste, elle a prononcé le nom de caste également, dont elle ferait partir. Et il se dit que même Gabriel Attal voudrait s'en séparer, que c'est Emmanuel Macron, pour l'instant, qui la tient en vie sous perfusion.
Bon, moi, j'ai pas envie de m'acharner sur une personne qui est en difficulté, sur une ambulance politique. Bon, je nuance simplement ce que tu as dit. Si elle venait à démissionner, ça serait pas principalement la victoire de Mediapart. Ça serait d'abord du fait de son énorme erreur, de son énorme faute de départ. C'est pas Mediapart qui l'a obligée à raconter une histoire qui n'était pas vraie. C'est pas ça. Elle avait plein d'autres manières de répondre et c'est d'ailleurs ce qui a été prévu dans ses éléments de langage dont elle a décidé elle-même. Mais bon, on va pas refaire l'histoire.
Pour ça.
Mais c'est pas Mediapart qui leur fera démissionner. C'est elle.
Ils ont voulu se la payer pour ça.
Après, la difficulté, c'est que un ministre de l'Éducation, quand il arrive, et ça avait été le cas d'Attal, doit imprimer sa marque et sa vision de l'éducation et de ses priorités. Elle, ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, qu'elle ne parle que par rapport à ses propres polémiques.
Voilà.
Et des polémiques qu'elle a parfois elle-même suscitées. Ouais. Et donc c'est ça qui rend l'exercice politique pour elle très compliqué. Je partage l'avis de Geoffroy sur le fait qu'elle devrait, à un moment donné, ne plus communiquer. Là, elle tombe sur une grosse affaire parce qu'on est dans un monde où tellement peu de gens remettent leur démission quand ils considèrent qu'ils ont échoué ou parce qu'ils sont en désaccord avec leur hiérarchie. Ce qui avant quand même arrivait, mais là aujourd'hui, ça n'arrive plus à personne. C'est qu'un haut fonctionnaire recteur de Paris, c'est quand même assez élevé dans la hiérarchie de l'administration de l'éducation nationale, qu'il remette sa démission, c'est devenu rarissime. Et donc, elle a une nouvelle crise à gérer qui, évidemment, affaiblit encore une fois sa position. Maintenant, c'est aussi la faute, on est en train de s'acharner sur Madame Oudéa Castéra, mais c'est quand même, là, il y a une faute politique qui a été commise par Emmanuel Macron et Gabriel Attal au moment du remaniement. À partir du moment où Gabriel Attal était nommé Premier ministre, on savait que la grande faiblesse de ce remaniement, c'était qui allait... Enfin, la grande question, en tout cas, c'était qui à l'éducation nationale.
Erreur de casting, donc.
Eh bien, je pense...
Et la problématique, c'est que si jamais elle démissionne ou si elle est démissionnée, qui
la remplace? Par qui la remplacer? Voilà.
On parle de François Bayrou. Ouais. Des rumeurs.
Mais vous rendez compte...
Qui a été ministre de l'Éducation.
Oui, mais vous rendez compte, François Bayrou a été...
Vous avez les réfrayés.
Un peu.
Vous vous rendez compte, François Bayrou a été ministre de l'Éducation nationale sous Jacques Chirac dans les années 2002 et suivantes, si ma mémoire est bonne. Non, c'était Luc Ferry. Enfin, ça remonte à 20 ans. Et donc, si on a que François Bayrou, qu'il me pardonne, c'est rien de. Pour remplacer Mme Oudéa-Castéra, c'est quand même un problème dans la Macronie. Donc je pense qu'il y a une erreur politique au départ, une erreur de casting. Elle était très bien en tant que ministre des Sports et avait installé sa légitimité. L'éducation nationale, c'est extrêmement difficile. Ouais. C'est un des ministères les plus difficiles.
Ministre des Sports, elle l'est toujours. Et dans le deuxième remaniement, peut-être qu'elle peut être aspirée, mais il faut trouver effectivement le bon candidat pour la remplacer. Et ça pourrait créer aussi un peu de séisme politique dans la Macronie.
La vérité, c'est que ça vous montre la faiblesse un peu. Moi, je la connais pas. Je connais pas ses qualités.
Donc, faiblesse de la Macronie.
La faiblesse, pas de la Macronie, de la classe politique, en fait, en règle générale.
De ce que la transformation de la classe politique avec la Macronie.
Et surtout, aussi compétente soit-elle, avec toutes ces affaires, c'est très compliqué de mener à bien sa mission.
Si elle était légitime et si elle avait quelque chose à dire au lieu de parler d'elle et de commenter sa propre polémique, elle pourrait rester. Je pense que ça, c'est tenable. Je veux dire, rappelez-vous, on a oublié, mais en 2020, quand Gérald Darmanin devient ministre de l'Intérieur, il y a une polémique, il est accusé de viol, etc. etc. Macron décide de tenir parce que respect de la présomption d'innocence. Lui décide d'assumer, de prendre le manche de son ministère et de travailler. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet. C'est un sujet pour 15 féministes complètement folles, mais il a été, entre guillemets...
Qui peut revenir, c'est dans d'autres circonstances.
Oui, enfin, bon, il faudrait qu'il y ait des nouvelles plaintes, etc. Mais en l'occurrence, c'est une question de poids politique. Moi, je pense que... Je vais même pas parler de la faiblesse de niveau. C'est pas la Macronie, c'est toute la classe politique. C'est pas qu'une question de faiblesse de niveau, c'est une faiblesse de conception de la responsabilité en politique. Donc, de fait, c'est vrai, tu as raison, personne ne démissionne plus jamais. Personne n'assume plus jamais rien. Personne n'endosse une responsabilité. Il y a une faiblesse de niveau que j'ai même pas besoin de détailler pour que tout le monde la comprenne. Et en vérité, c'est toutes ces faiblesses-là qui nous exposent à la figure avec la polémique Oudéa-Castéra. Et on finit par se dire qui pourrait tomber à l'éducation nationale.
Et l'envie de travailler, il nous reste une petite minute. Peut-être Sandrine Rousseau, qui sait. Non, je plaisante. Mais si je parle d'elle, c'est parce que le droit à la paresse pour travailler mieux, c'est ce qu'elle a évoqué encore une fois. Ça fait partie de ses idées depuis pas mal de temps. La députée écologiste qui a une nouvelle fois milité pour un droit à la paresse en France en réponse au discours de politique générale de Gabriel Attal. Vous voyez notamment donc son tweet sur X. Travailler moins pour se sentir bien, en quelque sorte. Vraiment des réponses courtes en quelques secondes, Philippe Guibert. En plein cœur de la crise des agriculteurs qui bossent 7 jours sur 7, 15 heures par jour, le droit à la paresse.
Mais elle gâche vraiment les causes qu'elle voudrait porter, parce que c'est vrai que le travail n'est pas tout dans la vie. C'est vrai que c'est une des conquêtes historiques de la gauche d'avoir transformé des esclaves en salariés. Je le fais vraiment très court et un peu caricatural. Le droit du travail, la sécu, les congés payés, tout ça, ça a été amené par la gauche. Mais le droit à la paresse, c'est pas vraiment la bonne expression et c'est pas vraiment le bon message.
Et le travail, c'est la santé.
Le travail, c'est la santé. Le repos n'existe pas si le travail n'existe pas. Par ailleurs, son modèle de société nous conduit à la ruine et à la désolation.
Ouais, c'est ça.
Elle a tout faux, en fait. C'est effrayant.
Merci. Je suis impatient de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle édition de 16 disputes. La semaine va être très longue. Demain, 14h, éventuellement, si vous voulez une petite piqûre de rappel de Rousseau qui vous accompagne le vendredi, samedi, dimanche.
Avec plaisir.
1 minute info.
Avec plaisir.
Je travaille, je reviens.
Mais dans un instant, Olivier de Kerenfleck. Avec Soir Info sur CNews. Bonne soirée.
Merci Lionel.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.